Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Merci de nous écouter fidèlement. Nous sommes très heureux d'accueillir les nouveaux auditeurs, car il y en a, paraît-il, le bouche à oreille fonctionne. Justina, notre spécialiste en théologie, comme nous le disons chez les orthodoxes, nous parlera aujourd'hui de Thomas. Bonjour Justina.
Bonjour.
Alors, je vous invite à vous rendre sur le site de notre association, mariedenazareth.com. Vous y trouverez toute notre actualité. Et notre grande actualité aujourd'hui sera le lancement d'un service par l'envoi d'un mail sur Sainte Thérèse. Vous saurez tout sur cette grande petite sainte. Et pour parler d'elle, aujourd'hui, je reçois le frère Jean-Alexandre Carme. Bonjour, mon frère. Et Jérôme Stevenson, que certains d'entre vous connaissent déjà, car c'est lui qui a eu cette magnifique intuition d'une minute avec Marie, que vous connaissez pour beaucoup. Un mail quotidien dont la lecture ne dépasse pas la minute, mais nous porte assurément 24 heures. Merci, bonjour Jérôme.
Bonjour France, merci.
Alors Justina, parlons de notre sceptique Saint Thomas.
Oui, donc on va commencer par la lecture. Ici, j'ai bien compris, la lecture de manière byzantine a eu son succès.
Énormément. Continuez.
On va le faire comme avant. Donc, j'ai pris aujourd'hui le passage qui est lu dans les paroisses orthodoxes qui suivent le nouveau calendrier, autrement dit néo-julien, et c'est un fragment de l'Évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. En ces temps-là, le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes de la maison étaient closes, là où se trouvèrent les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tient au milieu, et leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus. Or Thomas, l'un des douze appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas ». 8 jours après, ses disciples étant de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient et les portes étant closes et se tient au milieu et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule mais croyant ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour croyant vous ayez la vie en son nom. Donc dans cet extrait, il y a en réalité deux sujets à aborder. Le premier, une autre description de la Pentecôte qui ne contredit pas mais complète la description de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, elle se présente comme très intime et amicale, tandis que la description de l'apôtre Luc cherche à faire référence à la Pentecôte judaïque, la descente de la loi de Moïse au mont Sinaï, comme on en a parlé la dernière fois pour l'émission de la Pentecôte. Ici, le Christ vient en personne, salue les apôtres amicalement et leur inspire l'Esprit Saint en leur soufflant dessus. Nous ne sommes plus dans une description épique intimidante. De plus, on peut constater qu'il traverse les murs tout en étant en chair. C'est encore une image du Christ transfiguré, et par cela, c'est que nous espérons aussi pour nous-mêmes. Le Christ donne les dons de l'Esprit aux apôtres et les invite à aller les propager, tout comme au mont Tabor lors de la transfiguration. Nous sommes peut-être bien ici et maintenant, mais la béatitude n'est pas à garder au fond de sa propre poche, il y a le devoir d'aller l'annoncer. Le second sujet est celui de l'apôtre Thomas, Thomas l'incrédule comme on le désigne parfois. Le Christ félicite l'incrédulité de l'apôtre Thomas qui ne croit que ce qu'il voit de ses propres yeux et veut palper les plaies du Christ. Thomas ne croit pas à la résurrection comme en une histoire racontée, mais il veut en être témoin. Il veut être mis devant les faits. Ce que finalement Thomas veut, c'est un vœu matérialiste. La foi de Thomas n'est qu'une tentative de se débarrasser de l'incertitude. Il ne veut pas prendre la décision de croire, faire acte de foi. Il veut qu'on la lui impose. C'est le discours des athées ou des agnostiques d'aujourd'hui. Je veux bien y croire, mais vous n'avez pas de preuves. Je veux qu'on me prouve que votre Dieu existe. C'est pour cela que le Christ félicite aussi les générations des chrétiens à venir qui n'auront pas la chance de Thomas. On est condamné à croire à l'histoire de la résurrection ou ne pas croire. Très souvent, dans les discours, on oppose l'expérience empirique et l'espérance. Mais le Christ ne fait pas une opposition entre les deux. Et nous ne sommes ni au-dessus ni au-dessous des apôtres à ses yeux, mais juste différents, car oui, nous sommes différents. Les apôtres ont fait un cheminement entre l'espérance messianique terrestre et la compréhension nouvelle du Christ. Et nous sommes appelés à les surpasser d'un seul bond en avant. Nous suivons les apôtres en tant que disciples des disciples du Christ, mais en même temps, le Christ nous appelle à surpasser ses disciples directs. Donc il faudrait peut-être se lever et porter la tradition au lieu de faire semblant que nous sommes portés par la tradition. C'est pourquoi on ne peut pas se chercher des excuses. Mais je ne suis rien, je ne suis pas un personnage biblique. Vous êtes bien plus qu'un personnage biblique, vous êtes vous-même. Et le Christ nous appelle à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'une question de morale comme on peut le penser, c'est une question ontologique. La morale en tant qu'idée de suivre un ordre collectif existe aussi chez les singes. Ceci n'a rien d'humain ni de chrétien. Il faut que l'homme ancien meure et ressuscite dans le nouvel Adam. Et si cela lui arrive, il y aura des choses à partager.
Merci beaucoup Justina. En préparant cette émission, j'ai fait des recherches. Je voulais savoir qui était le jumeau de Thomas. Et alors, grande frustration, je n'ai rien trouvé. Et si un auditeur a la réponse, je la veux bien, des fragments de réponse en tous les cas. N'hésitez pas à nous écrire à magnificat@mariedenazareth.com. Alors à présent, je vous propose d'écouter « Vivre d'amour », ce magnifique texte, écrit par Sainte Thérèse, tiré du CD « Car il est amour », chanté par les séminaristes de la maison Sainte Thérèse.
Je t'aime, l'esprit d'amour m'embrasse. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, frère Jean-Alexandre, vos études auraient dû vous mener au conseil en stratégie ou autre directeur du marketing dans le milieu des affaires. Mais il me semble que vous le faites comme frère chez les Carmes Deschaux. Vous analysez l'environnement du monde, ce qui vous permet de donner des cours sur des sujets bien précis, comme la pédagogie de l'effort. Alors, en l'occurrence, avec l'autre grande Thérèse, celle d'Avila ici. Et voilà, vous identifiez les forces et faiblesses des hommes en leur proposant des orientations, un petit peu comme notre directeur du marketing, Jérôme Stevenson. Je comprends que vous vous entendiez bien. Alors, j'aurais une question à poser à vous, Jérôme, pour commencer, parce que nous allons commencer par le côté technique de ce nouveau service que propose l'association Marie de Nazareth. Donc, voilà, qu'est-ce que vous nous proposez avec Sainte-Thérèse à partir du 1er octobre, n'est-ce pas?
Oui, à partir du 1er octobre 2024, puisque 1er octobre, c'est le jour de la fête de Sainte-Thérèse. Mais pourquoi est-ce qu'avons-nous, avec les frères Carmes, décidé de faire un effort particulier pour communiquer et promouvoir la figure de la petite Thérèse? C'est parce qu'il y a l'anniversaire du 100e anniversaire de sa canonisation, le 17 mai 1925. Donc, cela fait un anniversaire important. Il y en aura un autre, il faut le signaler. On fêtera le 30e anniversaire de sa nomination comme docteur de l'Église, qui a eu lieu le 19 octobre 1997 par Jean-Paul II.
Oui.
Donc, cela fait deux anniversaires importants. C'est pourquoi nous avons décidé, il y a déjà longtemps, parce que cela fait longtemps que l'on travaille sur ce projet, avec la province de Paris des Carmes Deschaux et l'association Marie Nazareth, de faire un effort particulier. Et nous avons eu l'idée, avec le frère Jean-Alexandre, de créer un email quotidien qui rentrera dans la collection des emails quotidiens de l'association Marie Nazareth, oui. dont le style de ces emails, ou la couleur, ou l'odeur, peut-être, comme dirait le Saint-Père de cet email, c'est d'être court, c'est d'être rapide, donc, et c'est d'être profond. Et donc, l'association Marie Nazareth était évidemment très touchée d'avoir l'accord des frères Carmes pour organiser les textes de cet email. Et puis nous, Marie Nazareth, on va s'occuper de leur promotion avec les Carmes et de leur distribution par notre service email. Voilà, pour aller un petit peu dans le détail de cet email, dont le rédacteur en chef est donc le frère Alexandre, Jean-Alexandre. C'est le lundi. Il y aura un petit texte de Sainte Thérèse qui sera tiré de l'autobiographie. Le mardi, des manuscrits. Le mercredi, il y aura une poésie de Sainte Thérèse. Jeudi, ce seront les lettres de Sainte Thérèse qui seront analysées, montrées. Le vendredi, ce seront les prières et les récréations pieuses. Le samedi, les derniers entretiens et les témoignages. Et le dimanche, les miracles.
Alors, cette newsletter, elle sera envoyée pour un temps donné, ou alors est-ce que c'est comme pour une minute avec Marie, ce sera alimenté
Alors, ce sera chaque jour. Pour le moment, nous partons sur un cycle d'un an.
Oui.
Nous verrons si, et je le souhaite, mais je pense le frère Jean-Alexandre également, nous verrons si nous avons les possibilités humaines, les ressources humaines pour poursuivre au bout d'un an. Mais de toute façon, ça aura lieu, c'est prévu pour durer un an. Et je le signale, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup vos auditeurs, mais nous le traduirons en anglais, espagnol et italien.
Ah, c'est
donc ce sera disponible dans 4 langues.
Oui, d'accord. Alors, admettons que le 25 décembre, je souhaite m'abonner à ce service. Ça reprendra depuis le début ou alors en cours?
Non, ce sera en cours.
Très bien. Pour préciser pour nos auditeurs.
Et l'abonnement pourra se faire. Le plus simple, c'est de faire Thérèse au quotidien sur un moteur de recherche, Google pour ne pas le nommer, mais aussi sur les autres. Vous tapez Thérèse au quotidien et les deux premiers liens sont un lien d'abonnement de la province de Paris des Carmes Deschaux et un lien d'abonnement de l'association Marie Nazareth. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Voilà.
Très bien. Et c'est un abonnement qui est gratuit.
Et comme tous les services email de Marie Nazareth, c'est un service gratuit et puisque je suis aussi directeur marketing et des dons, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des dons qui seront partagés entre la province de Paris et de Carmes-des-Chaux et Marie de Nazareth.
Très bien.
C'est vraiment un partenariat qui, voilà, c'est... Je voudrais aussi signaler, France, avant que vous donniez la parole à Jean-Alexandre, mais je vais le faire brièvement, que nous avons deux autres projets pour Marie-Nazareth. Alors là, c'est pour Sainte-Thérèse, mais là, c'est Marie-Nazareth seule qui le fait. Encore que ce ne soit pas tout à fait juste, je vais vous expliquer pourquoi. Nous publions un livre qui sera en librairie au moment où cette émission passera, qui s'appelle « Thérèse et vous ». C'est dans la collection de Marie de Nazareth des livrets missionnaires. Donc là aussi, c'est court, c'est rapide et profond. L'auteur en est, et c'est pour cela qu'il y a un lien en fait avec les Carmes, l'auteur s'appelle Prénom Marlène, que certains de vos auditeurs connaissent parce qu'elle a une émission sur KTO, qui marche très bien d'ailleurs. Et le style de Prénom Marlène est très enlevé. Elle est membre du... Elle est très, très proche des Carmes. Et donc, c'est à la fois très spirituel, très moderne et très enlevé. En fait, si nous avons une ligne de toute cette ligne éditoriale, de tout ce travail que nous voulons faire, c'est d'essayer de renouveler un petit peu la présentation de Thérèse, le moderniser,
oui.
Voilà, à la fois par le mode de distribution, mais aussi dans les contenus.
Et nous pouvons trouver ce livre dans notre librairie en ligne sur marie-de-nazareth.com, dans l'onglet librairie.
Donc. Oui, ou bien sur mdnproduction.fr.
Très bien. Alors, mon frère, s'il vous plaît, en quoi Thérèse est-elle importante pour notre temps? Que peut-elle nous apporter?
Bien, je pense qu'il faut se rappeler que Thérèse est notre plus jeune docteur de l'Église.
Oui.
Déjà, c'est une femme et une jeune, c'est quand même deux caractéristiques. Et je crois qu'elle nous dit trois choses importantes pour notre temps. Le premier, c'est qu'elle nous rappelle dans la ligne du Concile que nous sommes tous appelés à la sainteté et qu'elle nous en décrit un certain nombre d'aspects du chemin de façon assez concrète dans ses manuscrits. Deuxièmement, je pense que dans notre monde qui va un peu dans tous les sens et qui nous absorbe dans beaucoup de dimensions, elle nous permet de retrouver un enracinement profond et en même temps simple en Dieu par la prière, avec une relation personnelle avec Jésus, puisqu'elle parle beaucoup de Jésus dans ses écrits et dans sa vie. Elle nous donne un peu le mode d'emploi d'une vie spirituelle profonde et simple, et je pense que beaucoup de gens aspirent à cette simplicité et à cette profondeur aujourd'hui, parce que sans ses racines, c'est un peu difficile de tenir dans notre monde. Et le troisième point qui me semble important, et peut-être qu'on connaît moins bien chez Thérèse, et j'espère que ce programme permettra de mieux le comprendre, c'est son réalisme spirituel. Thérèse était quelqu'un d'extrêmement réaliste, qui a vécu un certain nombre d'épreuves, on y reviendra après, je pense, et qui, du coup, pense sa relation avec Dieu dans cette réalité-là, parfois rude, de la vie. Donc, c'est pas une spiritualité qui flotte au-dessus. Parfois, on dit à petite Thérèse, un peu gnangnan.
Oui.
Non, Thérèse, c'est une femme qui est incarnée.
Très bien. Alors, en fait, oui, parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle... on a l'impression de savoir déjà tellement de choses sur Sainte Thérèse. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est qu'on peut découvrir ce côté concret qu'elle avait, donc vraiment maintenant, et on le verra dans le livre qu'a écrit Prénom Marlène, c'est ça ?
Marlène. Alors oui, souvent en fait, on veut dire, il y a une image de Thérèse, voilà, une image populaire de Thérèse, qui n'est pas fausse, mais qui est souvent assez partielle, et qui correspond un peu à l'image un peu de la petite Sainte Nitouche, qu'elle n'est pas. Réalité. Et un peu un des enjeux que nous, on a pensé pour ce programme, c'est de donner à lire les vrais textes de Thérèse, et notamment des textes qui sont moins connus. Je pense aux derniers entretiens, c'est-à-dire les dernières paroles de sa vie quand elle est malade de la tuberculose, où je dirais elle explose un peu les cadres habituels de la sainteté de son époque, avec des paroles extrêmement libres. Et j'ai participé récemment à une session sur Thérèse, sur le rapport entre Thérèse et la Vierge Marie. Elle a des paroles sur la Vierge Marie qui sont extrêmement proches de l'Évangile et qui, pour l'époque, sont d'une audace tout à fait étonnante. L'autre chose, c'est qu'on a aujourd'hui accès à beaucoup d'archives du Carmel de Lisieux. D'ailleurs, c'est un site web qui est en ligne, ce qui fait que nous connaissons beaucoup mieux psychologiquement le milieu de Thérèse du Carmel. Donc, on a beaucoup de compréhension plus précise de Thérèse. Et dans le programme qu'on va proposer, Thérèse au quotidien, il y aura toujours, enfin, presque toujours, une mise en contexte des textes. Parce que les textes, on les comprend en relation avec l'environnement dans lequel a vécu Thérèse. Sinon, on fait des contresens. Et beaucoup de gens comprennent mal Thérèse parce qu'ils s'arrêtent à un mot ou un style d'une jeune fille du 19e siècle qui écrit avec le style de son temps. Mais en réalité, souvent derrière des mots qui ont l'air inoffensifs de Thérèse, il y a quelques petites bombes théologiques qui ont produit quand même des révolutions, mais gigantesques, gigantesques dans l'Église.
Mais est-ce que ce n'était pas fait exprès qu'au départ on la présente de cette manière parce que les personnes n'étaient pas prêtes à entendre la suite? Donc on en a fait une image et on est resté, elle a été enfermée là-dedans. Alors que ce n'était pas elle, finalement.
Oui, alors disons qu'il y a plusieurs choses complexes. Il y a d'une part le fait que les textes qui ont été diffusés en 1898 après sa mort sont des textes retravaillés.
Oui.
Voilà, pour correspondre au public qui était escompté et en fait qui perdent un peu de leur fraîcheur, de leur saveur et parfois de leur vérité théologique. Et après, effectivement, Thérèse a été un peu les miracles. Il faut dire que les miracles ont été assez impressionnants. Les statues de Thérèse, les reliques, et donc tout ça, la réalité très miraculeuse qui est présente, qui continue aujourd'hui, hein, et le dimanche permettra de mesurer l'impact des miracles de Thérèse, mais on se rend moins compte du côté docteur de l'Église. C'est-à-dire que cette Thérèse, c'est à la fois la femme au miracle après sa mort, parce que de son vivant, il n'y en a quasiment pas, mais surtout l'enseignante. Elle est docteur de l'Église, donc elle a des choses importantes à nous dire, que parfois peu de gens disent sur un certain nombre de sujets, notamment le rapport à la souffrance, à la foi, à l'épreuve, à la communion avec les gens qui n'ont pas la foi. Elle a dit des choses que presque personne ne disait à son époque.
Alors, si je vous comprends bien, nous allons vraiment découvrir Thérèse.
Je l'espère, je peux pas le garantir ce que ce sera à chacun. En tout cas, on va donner, c'est ça un peu le but, c'est que, vous voyez, comme Jérôme Stevenson l'a dit tout à l'heure, chaque jour va permettre d'entrer dans un type d'écrit.
Oui.
Et vous voyez, de même qu'on ne peut pas interpréter chaque livre de la Bible de la même façon, un évangile, c'est un évangile, un psaume, c'est une poésie, le livre de la Genèse, c'est un récit, ce n'est pas du même genre. Eh bien, les textes de Thérèse, on ne peut pas les interpréter de la même façon. L'autobiographie, c'est le récit un peu dans le style de jeune fille, de son temps, et parfois le style peut être un peu agaçant. Les derniers entretiens le samedi, c'est les dernières paroles d'une femme qui va mourir.
Oui.
Les lettres, c'est la correspondance intime d'une femme avec ses plus proches personnes. Et donc, on va rentrer aussi dans l'intimité et surtout dans les textes eux-mêmes. Il va y avoir qu'il y a des textes qui vont vous gêner, des textes qui vont vous toucher, des textes qui vont vous scotcher parce que vous dites « Ah oui, c'est ça, Thérèse ». Et moi, je connais beaucoup de gens qui avaient du mal avec Thérèse, qui ont commencé à entrer dans des textes ou des paroles de Thérèse, qui se sont dit « Waouh !» Effectivement, là, il y a une humanité traversée par la foi, par la joie et par la souffrance qui vient rendre Thérèse très proche.
Ah oui.
Très proche, et ce que je souhaite, c'est découvrir la vraie Thérèse très proche en humanité. Et encore récemment, j'ai partagé avec beaucoup de gens qui disent « Pour moi, Thérèse, elle est venue me chercher et elle est proche, c'est une sœur. » C'est une sœur. Parce qu'elle a vécu, une vraie vie, au-delà des images, parce que des épreuves, elle en est courte, mais intense, oui. Et d'une profondeur et d'une verticalité, parfois décoiffe.
Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de la souffrance. Hein. On sait qu'elle a transformé cette souffrance en amour, et je trouve que c'est un vrai témoignage pour notre époque, où on veut supprimer la souffrance, je dirais même la plus infime douleur, ne pas affronter le mal, qui est quand même un vecteur d'apprentissage dans la vie. Et donc là, nous allons donc découvrir, vous disiez, le samedi, c'est ça, les derniers entretiens de Thérèse.
Et oui, voilà, donc,
qui pourra sans doute accompagner les malades, peut-être plus particulièrement aussi.
Oui, vous avez raison. Même si la question de la souffrance, on va le trouver dans la plupart des écrits de Thérèse, puisque c'est une femme qui a vécu et qui a souffert. Notamment, je nomme simplement les grandes épreuves de sa vie, la mort de sa maman Zélie, Sainte Zélie à l'âge de 4 ans, qui provoque chez elle un traumatisme majeur. Donc, psychologiquement, elle va avoir du mal à se libérer, parce qu'elle va répercuter une maladie à l'âge de 10 ans, où elle va être un peu au bord du gouffre. Elle va être donc guérie par la Vierge Marie. Ensuite, il y a la maladie de son papa, Louis.
Oui.
Hein, donc on sait aujourd'hui que c'est une artériosclérose cérébrale, mais tout le monde pensait qu'il était devenu fou. Il se baladait avec un pistolet. Enfin, ça a été une humiliation terrible. Et pour Thérèse, ça a été vraiment extrêmement douloureux. Et puis, bon, il y a les épreuves de la vie fraternelle au Carmel qui n'ont pas été faciles non plus. Et puis, surtout, voilà, faut pas oublier la double épreuve de la dernière année de sa vie, à la fois la tuberculose, on sait à quel point la tuberculose est quelque chose d'atroce, surtout dans la façon dont elle a été traitée à l'époque, et puis l'épreuve de la foi, hein, c'est-à-dire la dernière année de sa vie, un an et demi, dans lequel elle ne sent plus, au sens affectif, hein, la foi, même si elle en a les œuvres, comme Mère Teresa, qui vivra quelque chose de cet ordre-là. Donc Thérèse, quand elle parle de souffrance, elle sait de quoi elle parle, c'est pas qu'elle aime la souffrance, elle est dedans et elle cherche à lui donner du sens. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on trouve beaucoup dans les aumôneries d'hôpital des malades qui se sentent très proches de Thérèse. Parce que, vous voyez, les paroles de Thérèse, c'est les paroles d'une femme qui sait ce que c'est que souffrir. Oui. Elle ne raconte pas la vie.
Mon frère, je suis désolée, il faut que nous rendions l'antenne, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, nous invitons tout le monde à s'inscrire. Jérôme Stevenson, dites-nous en 12 secondes comment s'inscrire.
Eh bien, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Thérèse au quotidien et vous trouvez un lien d'inscription de la province de Paris des Carmes des Chaux et de Marie de Nazareth.
Très bien, merci beaucoup. Et moi, je vous invite à recevoir un livret que je serai très heureuse de vous envoyer. Écrivez-moi à magnificat@mariedenazareth.com ou alors vous écrivez à Radio Courtoisie, émission Magnificat, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. À dimanche prochain. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Jérôme. Merci, Justina.
Merci.
Merci, France. Au revoir.